Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ces deux heures d'infos, d'échanges et de débats. Nos agriculteurs ont besoin de nous, c'est en substance le message lancé ce soir par le monde agricole. La fermeture des restaurants est un débouché et donc un manque à gagner énorme pour les agriculteurs, poulets, légumes, foie gras. Des filières entières seraient menacées. Alors comment sauver nos agriculteurs qui continuent de travailler pour nourrir les Français? Notre invitée à 18h20, la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert. Elle demande aux Français de manger Made in France pour Noël. 18h30, le débat des grandes voix. Faut-il taxer les plus riches pour rembourser la dette Covid? Le débat rebondit, on en parlera évidemment. Et puis 19h15, dans le Club des idées, comment faire face au grand blues du confinement? C'est l'un des effets notables dont on parle peu en ce moment. Comment la crise sanitaire modifie nos comportements et notre santé mentale? Les dépressions doublé en un mois. Les chiffres sont très inquiétants, notamment chez les jeunes. Alors comment éviter une déprime générale et garder la positive attitude? On en parlera avec nos invités. D'abord le journal avec vous Isabelle Millet. Bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Il est 18h, vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
Reporter le Black Friday, ça semblait impensable hier encore. Et bien aujourd'hui, pourtant, plusieurs grands distributeurs se disent favorables à ce report. Et selon les infos d'Europe 1, il paraît que même Amazon y réfléchit.
Être désinfecté avant d'entrer au supermarché, et si c'était l'avenir?
Une grande surface de Saint-Etienne expérimente un portique qui diffuse un nuage de gouttelettes et qui, en prime, prend la température des clients.
Avec le confinement, les arrêts maladie longue durée s'envolent, une hausse de 30%.
L'interrogatoire cet après-midi de Jonathan Daval. J'avais de la colère. De toutes ces années, j'étais humiliée. Oui, je l'ai étranglée pour qu'elle se taise.
Va-t-on manquer d'électricité cet hiver? La question rebondit. Le réseau RTE fait planer la menace, comme tous les ans.
Et puis Corinne Diacre n'est pas rancunière, apparemment. La sélectionneuse des Bleus retient Amandine Henry pour les deux derniers matchs qualificatifs de l'Euro, mais elle promet une explication, les yeux dans les yeux. La Bourse de Paris recule de 0,67% à 5474 points.
Et puis elle ne recule devant rien. Bonsoir Anissa, bonsoir, vous nous avez rejoint pour la tendance météo avec un temps plus clair demain.
Oui, avec beaucoup plus de soleil et des conditions anticycloniques, ça sera assez sympa demain après-midi. Attention, du gros temps sur la Corse et des températures qui continuent de baisser. Je vous détaille tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et la polémique donc autour du Black Friday. Faut-il reporter cette opération promotionnelle comme le réclamait hier Bruno Le Maire? Privilégier la raison sanitaire ou la raison économique? Risquer de se mettre encore davantage à dos les commerçants.
Un Black Friday prévu, on le rappelle, le vendredi 27 novembre. Carole Ferry, est-ce que le ministre de l'économie a été entendu? Est-ce que ce report finalement est envisageable?
Eh bien complètement. Alors je vous dis pas que c'est fait, hein, loin de là, mais ce que je peux vous dire, c'est que tout le monde y réfléchit. Le deal, je vous rappelle, c'est si la grande distribution et les commerces en ligne acceptent de décaler le Black Friday au 4 décembre, alors les magasins physiques pourront sans doute rouvrir dès le week-end du 28 novembre au lieu du 1er décembre. Ils auront donc un week-end de vente en plus avant Noël, mais sans ruer sur les promotions. Alors ce que je peux vous dire, c'est que Bruno Le Maire a eu directement en ligne le patron de Carrefour, Alexandre Bompard, qui lui a dit « Ok, si tout le monde y va, on décale. » Michel-Édouard Leclerc a tweeté la même chose. « Si c'est une démarche collective, on en fera partie. » Pareil pour le patron de Système U. Puis Cdiscount également a dès le départ dit qu'il suivrait le mouvement par solidarité avec les commerces physiques.
Alors tout ça, c'est très bien, Carole. Sauf que la locomotive, bien sûr, c'est Amazon.
Eh bien oui, mais vous savez quoi? Il paraît que même Amazon, même le géant américain réfléchirait à la question. Jusqu'à présent, c'était hors de question hein, parce que le Black Friday, c'est une gigantesque machine mondiale chez Amazon. Sauf que là, s'ils sont seuls face aux autres, c'est aussi une question d'image. Mais enfin bon, il faut encore le feu vert de la maison mère, donc rien n'est fait. Alors vous avez aussi ceux qui avaient lancé leur campagne de pub, imprimé leur catalogue, embauché spécialement du personnel. Mais c'est loin d'être impossible et on devrait en savoir plus.
On a tout compris, même s'il y a eu quelques petites coupures à la fin. Merci en tout cas, Carole Ferry. C'est la magie de la du direct en télétravail. Carole Ferry du service économie d'Europe 1.
Autre information du soir, les nouveaux chiffres, les derniers chiffres de l'épidémie qui pourraient changer la donne en cas de nouvelle flambée. On les attend d'un instant à l'autre. Point presse en ce moment du ministre de la Santé. Olivier Véran, on suit tout ça évidemment pour vous. Alors déconfinement gradué, on aura peut-être des indications dans quelques instants. On vous donnera en tout cas les dernières infos en direct.
Avec le Covid, en attendant le vaccin, il faudra sans doute encore, pendant plusieurs mois, adapter notre quotidien. On le sait, avec des contraintes sanitaires, cet avenir différent, tout le monde s'y prépare, et notamment les magasins, justement.
Oui, dans la Loire, à Saint-Etienne, un hypermarché teste un prototype, une sorte de portique désinfectant, Jean-Luc Boujon.
Oui, ça s'appelle la Sanibox. Ça ressemble effectivement à un portique d'aéroport et c'est installé juste à côté du portillon d'entrée du supermarché. Les clients l'utilisent ou pas, ce n'est pas une obligation. En tout cas, une hôtesse leur explique à quoi ça sert et comment ça marche.
Madame, est-ce qu'on vous a expliqué le fonctionnement de notre cabine ? Nous venons d'installer ça. Donc, vous vous présentez devant la cabine.
Il y a donc trois étapes. Voilà, d'abord, une caméra prend votre température.
Température normale.
Ensuite, vous mettez du gel dans vos mains. Enfin, vous passez sous le portique et là, vous êtes brumisé et désinfecté, explique Anne-Claire Bonnet, la directrice de l'Intermarché Saint-Étienne-Bellevue.
On passe dans la cabine, on fait un demi-tour sur soi. La brume qui est pulvérisée est 100% naturelle, faite à base d'eau. L'idée, c'est qu'elle fasse tomber les particules et que les UV détruisent ces particules. C'est la certification qu'a donnée l'ARS Santé, ce pourquoi aussi je me suis laissée séduire. Je trouve que c'est plutôt à l'heure actuelle quelque chose de bien, aussi pour le personnel qui est très exposé par rapport à cette crise sanitaire. Du coup, j'ai voulu aussi protéger mon personnel.
Voilà, selon la directrice, 80% des clients acceptent de jouer le jeu, à l'image de Monique.
C'est une précaution en plus, une idée de sécurité. Donc pour nous, c'est une bonne solution.
Ça voilà. Sécurise un peu les courses.
Ça sécurise un peu les courses.
Coût de l'investissement, 10 000 euros, mais la directrice du supermarché estime que cela en vaut la chandelle, d'autant que la technologie de cette Sanibox est française. L'entreprise est basée dans les Alpes-Maritimes.
Et donc, qui sait, ça va peut-être se généraliser. Jean-Luc Boujon, correspondant d'Europe 1 à Lyon. Et ça se passe à Saint-Étienne, dans cet hypermarché.
On les avait déjà constatés lors du premier confinement, les dégâts psychologiques liés à la crise sanitaire.
Le baromètre annuel Malakoff Humanis livre un premier éclairage sur les conséquences concrètes au niveau de l'absentéisme des salariés, avec une très forte augmentation des arrêts maladie longue durée, en hausse de 30%, des arrêts d'une durée moyenne de 94 jours, un peu plus de 3 mois, et donc un lien direct avec le confinement. Reportage Hélène Terzian.
Avec le deuxième confinement, c'était travail et maison. Il y avait à côté, j'avais pas beaucoup d'à côté.
Ce confinement, ça a été la goutte de trop. Hassen, animateur en centre de loisirs de 42 ans, est en arrêt maladie, anéanti par la solitude et la pression au travail.
C'est pesant parce que l'école dans laquelle je travaille, on n'a pas de moyens. Les activités sont très limitées avec toutes ces normes sanitaires. Même si je travaillais, à part un week-end sur deux où je voyais mes filles, je pense que c'est l'isolement et l'ambiance générale qui m'a tué à petit feu. Quoi.
Anxiété, surmenage, burn-out. Entre janvier et septembre, le taux d'arrêt maladie pour troubles psychologiques a doublé. Anne-Sophie Godon, directrice de l'innovation chez Malakoff Humanis, alerte. Toutes les catégories de travailleurs y sont exposées.
Il y a d'abord ceux qui sont venus travailler sur site et qui ont eu peur potentiellement d'être contaminés. Il y a les salariés qui sont en chômage partiel pour qui la peur de perdre leur emploi est un facteur de stress. Et puis les télétravailleurs qui ont vu leur vie pro et leur vie perso se mélanger.
Des arrêts de travail pour troubles psychologiques souvent plus longs que les autres et que les employeurs craignent de voir se multiplier.
Le reportage d'Hélène Terzian.
Et on en parlera tout à l'heure dans le Club des idées, le grand débat à partir de 19h15. Comment garder la positive attitude et ne pas broyer du noir les réponses tout à l'heure donc. Dans l'actualité également, la proposition de loi sur la sécurité globale. Face à la polémique autour de l'article 24, le ministre de l'Intérieur propose d'introduire un amendement pour garantir la liberté de la presse. On y reviendra également dans votre journal Isabelle de 19h.
Un ultimatum inédit, celui du Conseil d'État à propos du réchauffement climatique. La plus haute juridiction administrative donne à la France 3 mois pour justifier ses efforts climatiques et sa volonté de tenir ses engagements en matière de réduction des gaz à effet de serre.
Et comme chaque hiver, à la même époque, cette mise en garde du réseau RTE qui gère la distribution de l'électricité, gare, nous dit-on, à la pénurie en cas de grand froid.
Élise Dangean, ça veut donc dire qu'il pourrait y avoir des coupures, sauf qu'en réalité, ça n'arrive jamais. Pourquoi cette menace récurrente ?
Eh bien parce que pour RTE, mieux vaut prévenir que guérir. Effectivement, sur la décennie, aucune coupure d'électricité n'a été réalisée pour des questions d'approvisionnement, mais ça n'empêche pas le gestionnaire de tirer régulièrement la sonnette d'alarme. Car il faut dire qu'on a un parc de production assez tendu, notamment depuis la mise à l'arrêt des 2 réacteurs de Fessenheim cette année. Par ailleurs, on attend toujours l'EPR de Flamanville. Épreuve de cette tension, le recours depuis septembre aux centrales à charbon que la France s'est engagée à supprimer d'ici 2022, car on manque de réacteurs nucléaires en état de marche, explique Jean-Paul Roubin, directeur d'exploitation de RTE.
Normalement, au début de l'hiver, on a les réacteurs nucléaires qui sont au maximum disponibles. Cette crise sanitaire a bouleversé ses plans de maintenance. EDF a fait un énorme travail pour permettre le retour d'un maximum de réacteurs au cours de l'hiver. Il en reste encore un certain nombre à reconnecter au réseau, donc il y a une incertitude.
C'est en février que la situation devrait être la plus tendue, mais pas de panique. Les coupures locales ne seront utilisées qu'en dernier recours et ne dépasseront jamais 2 heures consécutives.
Élise Dangean du service économie d'Europe 1.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
18h11, la suite de votre journal avec Isabelle Millet. On s'intéresse au procès de Jonathan Daval. Au lendemain de son malaise, il a donc cette fois pu être entendu par la cour d'assises de la Haute-Saône cet après-midi. Et il a reconnu que oui, il a bien eu l'intention de tuer sa femme Alexia.
Une version glaçante, Arthur Elmbachet. Vous avez suivi cette audience au cours de laquelle il a donc détaillé le déroulé de cette fameuse journée.
Oui, au cours d'une audition éprouvante, moment le plus difficile depuis le début de ce procès, la voix fluette de Jonathan Daval, les larmes de Jonathan Daval et à quelques mètres de lui les larmes des parents d'Alexia. L'accusé raconte cette soirée du 27 octobre 2017. Alexia arrive dans le salon, elle me propose une relation sexuelle, je m'y oppose, je savais qu'avec mon problème d'érection, j'allais pas pouvoir le faire, combler ma femme. C'était humiliant, elle me fait des reproches, elle me dit que je la désire plus. Moi, comme d'habitude, je fuis parce que je sais que ça va partir en dispute. Je prends les clés de la voiture, dit-il. Elle me les reprend. On s'est donné des coups, on s'est poussé. Je l'ai plaqué contre le mur pour lui reprendre les clés de la main. Encore des insultes et là, elle m'a mordu le bras. J'ai pété un câble, ça m'a mis hors de moi. J'étais en rage, j'ai fait cocotte minute, j'ai débordé, dit-il. Calmement, il continue son récit. Je lui ai poussé plusieurs fois la tête contre le mur avant de lui donner des coups violents pour qu'elle se taise, dit-il. Et après, la strangulation, je l'ai saisie par le cou, j'ai serré, je pourrais pas vous dire combien de temps, et quand j'ai senti qu'elle s'affaissait, j'ai lâché. Le président de la cour demande « Est-ce que c'est la mort que vous vouliez ?» Ben, oui. Qu'elle se taise à jamais ? Ouais, ouais. Quand on étrangle quelqu'un comme ça, c'est pour donner la mort. Ensuite, il raconte la crémation du corps. Entre 2 sanglots, il dit qu'il a transporté Alexia comme un vulgaire sac à patates, dit Jonathan Daval, qui explique « Mettre le feu à un corps, c'est pour effacer les traces. À l'heure actuelle, j'ai encore du mal à admettre ce que j'ai fait, dit-il. C'est dégueulasse. »
Récit glaçant, en effet. Arthur Elmbachet en direct de la cour d'assises de la Haute-Saône. Et le verdict est attendu sans doute demain soir.
Les sports à présent, Isabelle, et une Française championne d'Europe.
La jeune judoka Shirin Boukli, sacrée donc championne d'Europe des moins de 48 kilos à 21 ans seulement. À Prague, c'était son premier championnat international.
En foot, Amandine Henry rappelait donc chez les Bleus, après ses critiques pourtant contre la sélectionneuse Corinne Diacre.
Oui, on en avait parlé sur Europe 1. Hein. La capitaine et milieu de terrain avaient eu des mots très durs sur le management. Eh bien, Julien Froment, ces mots, Corinne Diacre, elle les a entendus. Hein.
Oui, elle a entendu la complainte d'Amandine Henry, mais Corinne Diacre n'est pas du genre à étaler ses états d'âme par médias interposés. La technicienne a donc préféré calmer le jeu.
Pour moi, c'est pas que c'est pas un problème, c'est un problème. Effectivement, il faudra régler les choses. Mais aujourd'hui, la priorité, c'est l'équipe de France et surtout... Le match à venir, je suis vraiment concentrée là-dessus.
Et le match à venir, c'est l'Autriche. Le 27 novembre prochain, les Bleus joueront leur qualification pour l'Euro 2022. Mais cet enjeu sportif est passé totalement en arrière-plan. 90% des questions ont tourné autour de l'interview donc donnée dimanche dernier par Amandine Henry à nos confrères de Canal+. Et face à ce qui ressemble à une fronde, eh bien Corinne Diacre a rappelé qu'elle avait le soutien de son président, Noël Le Graët, mais aussi d'une partie des joueuses. Elle ne compte pas démissionner. « Je suis toujours debout », a-t-elle martelé. Amandine Henry, lanceuse d'alerte du mal-être des Bleus, reste la capitaine pour ce rassemblement. Pour autant, Corinne Diacre n'oublie pas. Une grande explication aura lieu les yeux dans les yeux dans les murs du château de Clairefontaine lundi prochain à l'occasion de retrouvailles qui s'annoncent pour le moins électriques.
Merci Julien Froment du service des sports d'Europe 1.
Julien Froment qui a un super suite pour vivre heureux, vivons. Voilà, c'est un slogan d'actualité. Merci de nous le faire partager mon cher Julien.
Avec plaisir.
À tout à l'heure Isabelle, 18h30 pour le rappel des titres et 19h pour le grand journal de l'info. La météo avec Anissa qui nous a rejoint et qui nous annonce des éclaircies pour demain.
Pour vivre heureux, vivons sous le soleil effectivement. Et bien
c'est
demain
pas mal aussi, ça.
Nous en aurons avec toujours pas mal de brouillard, attention, hein, des nuages bas sur toute la moitié nord du pays en début de journée. C'est dans le sud-ouest et au bord de la Méditerranée que le temps sera le plus agréable le matin. Attention aussi, si vous nous écoutez sur l'île de Beauté en Corse, nous avons une dégradation pluvio-orageuse qui vous apporte des pluies soutenues et du vent fort, surtout sur la Haute-Corse. Donc soyez prudents, demain ça va durer toute la journée. Dans l'après-midi, vous le disiez Julien, plus d'éclaircies sur une grande partie du pays, nous avons des conditions anticycloniques, le soleil sera donc au rendez-vous. Il n'y a qu'en Bretagne et en Normandie on dit que le ciel sera un petit peu plus couvert. Dans le sud, le Mistral et la Tramontane se calment mais soufflent encore bien demain. Et puis les températures, eh bien elles baissent avec des petites gelées en Auvergne et sur le nord-est demain. 2 à 11 degrés le matin et seulement 7 à 18 degrés demain après-midi. Nous aurons 9 degrés.
Entre 7 et 18
Voilà.
Il y a une grosse marche.
7 degrés à Clermont-Ferrand, 9 à Paris et 18 à Toulon.
18 à Toulon, comme toujours, dans
comme
le sud.
D'habitude.
Au bord de la Méditerranée, ils ont de la chance. Merci Anissa.
À tout à l'heure.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et ce soir, notre invité à 18h19, la présidente de la FNSEA, le principal syndicat agricole français. Bonsoir Christiane Lambert.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous pour évoquer effectivement l'avenir difficile de nos agriculteurs. Vous avez décidé d'ailleurs ce soir de lancer un appel à tous les Français pour consommer local pour les fêtes de fin d'année et favoriser le Made in France. Et vous appelez d'ailleurs à votre tour à rouvrir au plus vite les restaurants. Pourquoi ?
Les restaurants sont un lieu d'alimentation privilégié et nos amis restaurateurs sont en souffrance. Les restaurateurs valorisent des produits français en très grande quantité. En ce moment, c'est bien sûr tous les produits dinde, canard, foie gras, etc. Mais les restaurateurs ont besoin de retrouver des débouchés. Nous avons signé des partenariats avec beaucoup d'entre eux pour qu'ils aient prioritairement des produits de nos terroirs français. Et c'est pour nous une perte de débouchés. Donc nous comprenons leurs difficultés, ils comprennent les nôtres et nous appelons ensemble à réouvrir les restaurants.
Oui, parce que Christiane Lambert, précisons-le, la restauration hors domicile constitue, vous l'avez évoqué, un énorme débouché pour les produits agricoles français qui n'aura donc pas lieu si les restaurants restent fermés. Alors pour le foie gras, par exemple, pour être tout à fait concret, 40% de la consommation se fait dans les restaurants, donc sans eux, c'est une catastrophe pour l'ensemble de la filière. Et c'est pareil, par exemple, pour la filière pintade, avec des centaines, j'imagine, d'emplois à la clé.
Exactement. Donc 40% du foie gras en restaurant, 75% du foie gras est vendu sur le mois de décembre. C'est dire si cette filière très forte en France, très implantée, notamment dans le sud-ouest et la façade ouest de la France, attend que l'on puisse manger ces produits. On peut aussi parler des chapons, les fameux chapons de Noël, 100% consommés au moment de Noël, les dindes fermières. Et donc la demande, c'est vraiment que les Français commandent dès maintenant, réservent leurs produits en fonction de la taille de la famille.
Oui.
Là où on était 15 ou 16, on sera peut-être que 6, 7. Donc nous avons travaillé avec les bouchers, avec les industriels, pour offrir des formats plus petits, des parts de foie gras plus, enfin des conditionnements plus petits qui permettent de se faire plaisir quand même et de pouvoir manger des bons produits français. C'est très très important pour garder cette alimentation durable et cette production durable que nous avons en France. Et c'est un appel, un cri du cœur, nous en avons vraiment besoin. Et si les Français sont au rendez-vous, ça va redonner du cœur à l'ouvrage et aux producteurs et aux restaurateurs.
Christiane Lambert, vous appelez en somme au patriotisme gastronomique et en même temps l'export, cela rapporte beaucoup à nos agriculteurs, on en parle régulièrement. Alors si tous les pays faisaient pareil, ça nous pénaliserait aussi, nous Français.
Oh, vous savez, les Italiens ne se gênent pas. Ils ont lancé une démarche qui s'appelle Itali. Chaque pays met en avant ses produits. J'ai eu l'occasion de le voir dans de nombreux pays. C'est tout à fait normal qu'on priorise les achats français parce que ce sont les emplois français. Vos achats sont vos emplois. Si tout le monde achète des produits étrangers, on n'aura plus de fabrication, ni de chaussures, ni de vêtements, ni d'industrie, ni de rien du tout en France. Donc nous sommes patriotes, oui c'est vrai, fiers de nos produits. En plus, nous avons des règles et des normes très élevées, des conditions de bien-être animal et autres qui n'existent pas ailleurs. Les Français sont exigeants vis-à-vis des agriculteurs. Nous sommes au rendez-vous pour remplir les conditions. Alors nous demandons qu'ils honorent la commande et qu'ils se fassent plaisir aussi. Parce que vous savez, Noël, c'est un moment de fête, c'est un moment de retrouvailles, c'est un moment de convivialité. En ce moment, les Français n'ont pas le moral. C'est compréhensible avec le confinement. Là, c'est bon, on peut réacheter des sapins de Noël. Pensez aussi aux fleurs de Noël, les poinsettias, les cyclamens qui égayent nos maisons. Ne perdons pas ces traditions, ces traditions familiales.
Et on espère évidemment, Christiane Lambert, qu'on pourra se retrouver pour les fêtes. On attend évidemment la prise de parole avec beaucoup d'intérêt du président de la République, normalement, la semaine prochaine. Alors, lors du premier confinement, les coopératives agricoles avaient estimé leur perte à 28% de leur chiffre d'affaires, parfois même jusqu'à 50% pour certains exploitants. Est-ce que l'on sait, est-ce que vous savez, quel sera cette fois l'impact de ce deuxième confinement ?
Alors, nous n'en connaissons pas la durée. Tout dépend de ce qui va se passer dans les annonces du Premier ministre et notamment pour les restaurants. Cette fois-ci, les cantines sont restées ouvertes. Donc c'est déjà un mieux. Malheureusement, seulement 50% des élèves, des scolaires y participent. Mais nous avons conservé ces débouchés. Les marchés sont restés ouverts. Les marchés de plein vent, ils avaient été fermés. Cette fois-ci, ils sont ouverts. Donc on a moins de dégâts parce qu'on a aussi tiré enseignement des mauvaises décisions du confinement. Le gouvernement avait pris parfois des décisions un peu à la hâte. Cette fois-ci, les lieux d'achat sont plus nombreux. Donc, par contre, il y a eu cet arrêt de la restauration et certains produits comme les magrets de canard, les cuisses de canard, les steaks, les pavés, les entrecôtes, les frites, on les mange au restaurant, on ne les mange pas à la maison.
Et Christiane Lambert, qu'est-ce que vous dites à tous les Français qui nous écoutent, là peut-être théâtre ce soir et qui se disent « bon, c'est bien gentil de consommer français, mais ça coûte plus cher, ça coûte plus cher ».
Ça coûte plus cher, oui, c'est vrai, parce que nous avons des conditions de production qui sont plus. C'est aussi ce qu'exigent les consommateurs, donc c'est un tout. Nous, nous répondons aux normes plus élevées et ça coûte plus cher. Mais ça maintient les emplois en France.
Oui.
Donc comme on sait que la question du chômage va être un gros problème pour bon nombre de Français, préserver
donc
l'achat français,
patriote, c'est
préserver
c'est ce que vous dites.
Les emplois en France. Alors, dire aussi que nous travaillons pour les précaires alimentaires. Oui. Nous donnons énormément de nos produits à la Banque alimentaire, au Resto du Cœur, à Solal, qui sont des organisations qui s'occupent des plus démunis, 5,5 millions de personnes quand même. Mmh. Et nous travaillons pour avoir aussi des chèques alimentaires pour ces populations, comme les food stamps, les timbres alimentaires qui existent aux USA. C'est une façon de soutenir aussi la production agricole et de l'orienter vers les plus démunis.
Christiane Lambert, question d'actualité. La concurrence d'Amazon, dont on parle évidemment beaucoup en ce moment, qui s'est mis d'ailleurs sur le créneau de l'alimentaire et qui entend en devenir l'un des leaders de la distribution, est-ce que c'est une source d'inquiétude pour vous ou ça permet au contraire de valoriser les produits français ?
Non, ça ne permet pas de valoriser bon nombre de produits français, il faut se dire les choses.
Oui.
Amazon, on le sait bien, et c'est quand même une majorité de produits made in China ou made in ailleurs qui ne respectent pas du tout les mêmes règles. Et franchement, on ne peut pas, quand ça nous arrange, commander sur Amazon et puis après retourner voir les petits commerçants. Ou pire, certains vont faire les essais chez
donc
les petits commerçants.
Donc vous êtes anti-Amazon, vous pour...
Je ne suis pas anti-Amazon, mais je dis simplement que quand on veut des cœurs de ville vivants des petits commerçants ou des gros commerçants et des commerces de proximité où on peut avoir un contact du conseil, eh bien, il faut être cohérent. Et moi, je souhaite que pour les fêtes de Noël, dès qu'on va être déconfiné, on puisse retourner prioritairement chez nos commerçants du coin, dans nos villages, dans nos villes, dans nos centres-villes. Bien. Ils en ont besoin.
Christiane Lambert, comment vont nos agriculteurs? Comment vont nos paysans? 600 suicides l'an dernier. C'est 2 suicides par jour. Dans quel état d'esprit sont-ils aujourd'hui dans cette situation difficile? Est-ce que vous recevez beaucoup d'appels de détresse de leur part?
Oui, nous recevons des appels de détresse et nous les accompagnons. Mais c'est un métier qui est compliqué parce que nous avons eu une sécheresse très très grave.
Oui.
Les céréaliers ont eu une baisse de rendement de 30%. Nous avons eu aussi de très fortes inondations. Le climat nous joue des tours. Ça, c'est compliqué. Nous avons aussi des baisses de cours importantes dans certains secteurs. En ce moment, secteur de la viande bovine travaille à perte. Nous avons une pression de prix bas dans la distribution. J'entendais les publicités tout à l'heure qui est terrible. Hein. Il faut se battre tous les jours et le ministre se bat. Merci aussi pour respecter la loi alimentation qui a dit qu'il fallait payer nos agriculteurs pour
le prix juste
de leur travail.
Au prix juste.
Exactement. Et puis, il y a aussi beaucoup de critiques faciles en direction du monde agricole. Les mêmes qui disent « faites ci, faites ça, plus de bien-être, etc. » Puis qui, tous les samedis, vont pousser le caddie pour chercher les produits les moins chers. C'est quand même un manque de cohérence. Donc, nous disons « plus vert, c'est plus cher ». Si on veut des produits qui ont plus de respect de l'environnement, plus de respect sanitaire, plus de respect du bien-être, il faut accepter de les payer un petit peu plus cher. Sur l'ensemble de l'année, ça ne représente pas des sommes mirifiques. Et puis, un dernier mot… Sapin de Noël. Quand je vois une pub que je vois passer sur Twitter, IKEA qui invite à venir acheter son sapin de Noël à 29,99 € et qui
rembourse 20
euros.
C'est pas des Français, ça. C'est pas des Français.
Mais oui, mais je sais pas d'où ils viennent, ces sapins. Je vais me renseigner. Mais franchement, 4,99 € le sapin, d'une fois que les 20 euros ont été remboursés, c'est un scandale.
Oui.
Donc, ces pratiques-là, moi, je les condamne. C'est pas bien pour les consommateurs, parce qu'ils s'imaginent qu'ils font une affaire, mais ils tuent leurs emplois.
Bien.
Donc, soyons sérieux, et puis soyons un petit peu plus solidaires. Il y a ceux qui en parlent, de la solidarité, et puis il y a ceux qui la font. Nous la faisons, et avec les restaurateurs, c'est vraiment un geste de solidarité, producteurs, restaurateurs, consommateurs. Nous avons lancé cet appel, il y a un clip vidéo qui a été fait. Je veux remercier Vianney, le chanteur Vianney et Les Frangines qui nous ont mis à disposition leurs chansons ensemble, gratuitement, en geste de solidarité, et leur boîte de production. Merci Monsieur Sébastien
Merci
Sausset.
À vous Christiane Lambert.
Il y a des beaux gestes, mais il y a des mauvais
gestes.
Alors
et on
va sortir les cartons rouges et les cartons jaunes.
Bien, et on vous invitera pour faire le bilan à la fin du match. Merci Christiane Lambert d'avoir été ce soir notre invitée. Et on entend votre appel. Consommer français, favoriser le Made in France alimentaire. Merci à vous.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugy.
Avec le rappel des titres d'Isabelle Millet.
Oui, je lui ai donné la mort. Jonathan Daval reconnaît avoir voulu tuer sa femme Alexia parce que, dit-il, il était hors de lui en en colère après toutes ces années. Je l'ai étranglée pour qu'elle se taise. J'ai essayé de la réveiller, mais c'était trop tard. La tension hospitalière reste forte sur le territoire, dit ce soir Olivier Véran. Un patient admis en réanimation toutes les 4 minutes, mais tous les indicateurs épidémiologiques s'améliorent néanmoins et le virus circule moins vite qu'avant. Le ministre de la Santé qui tient en ce moment un nouveau point presse en compagnie de la ministre chargée de l'autonomie, Brigitte Bourguignon, qui confirme que la situation reste compliquée dans les EHPAD, mais que l'on a tiré les enseignements de la première vague, protégés sans isoler. La proposition de report du Black Friday est accueillie plutôt favorablement par la grande distribution, même si rien n'est décidé pour l'instant. Tout le monde se retrouve demain pour une nouvelle grande réunion. Et puis le ministre de l'Intérieur corrige le tir sur sa loi de sécurité globale. Il propose un amendement sur la liberté de la presse après la polémique entourant le fameux article 24.
Merci Isabelle. À tout à l'heure 19h, la météo.
La météo sur Europe 1 avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
Et ça se corse en Corse, ma chère Anissa.
Bravo, Julien. L'île de beauté essuie demain une dépression avec de fortes pluies et des vents tempétueux jusqu'à 110 km/h. Alors ça concerne particulièrement la Haute-Corse, soyez prudents dans ce secteur. Dans le sud, le Mistral et la Tramontane soufflent toujours. Il faut savoir que ça va souffler fort dans les prochaines heures, notamment sur les Pyrénées-Orientales avec le Cap Béar qui devrait essuyer là aussi des rafales jusqu'à 150 km/h. Ça va se calmer demain matin. Partout ailleurs, eh bien, le temps est plus calme avec sur la moitié nord encore beaucoup de brouillard demain matin. Sur la moitié sud, il fait beau dès le début de journée et dans l'après-midi, le beau temps s'installe sur l'ensemble du pays. Il n'y a qu'en Bretagne et en Normandie que le ciel sera couvert demain. Les températures, elles sont plus fraîches. Vous allez bien le sentir demain puisque nous aurons des gelées dans le nord-est et en Auvergne. Et puis 2 à 10 degrés partout ailleurs. Et dans l'après-midi, seulement 7 à 18 degrés. Nous aurons 9 degrés à Paris, 12 à Nantes, 14 à Biarritz et 18, la maximale, du côté de Toulon.
Et oui, Toulon, 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 où il fait bon vivre. Merci Anissa, à tout à l'heure.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h33, le débat des grandes voix du jeudi avec ce soir à mes côtés Catherine Ney. Bonsoir Catherine.
Bonsoir Julien.
Emmanuel Ducrot, éditorialiste et journaliste à l'Opinion. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Julien.
Et l'historien Jean Garrigue. Bonsoir Jean.
Bonsoir.
Et on reparle donc ce soir de la taxe Covid. Faut-il demander un effort à ceux qui n'ont pas été impactés par la crise? L'endettement généré par le Covid et les mesures de soutien mises en place par le gouvernement pose la question du remboursement. Le gouvernement exclut toute hausse d'impôts à ce stade, mais pourra-t-il tenir sur cette ligne? Car cette dette, il va bien falloir la rembourser. Écoutez Bruno Le Maire, le 4 septembre dernier, ce qu'il disait. Moi, ministre de l'économie?
Tant que je serai ministre de l'économie, des finances, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts en France. C'est l'engagement que j'ai pris à plusieurs reprises devant les Français, qui a été confirmé par le Premier ministre et par le président de la République. La seule politique qui vaille, c'est celle qui permet de relancer notre économie, développer l'emploi dans les entreprises et baisser les impôts des ménages comme des entreprises.
Alors, taxer les plus aisés pour financer la relance et réduire les inégalités, bonne ou mauvaise idée, Emmanuel Ducrot?
Déjà, il faut se poser la question de l'équation de base, hein, la dette Covid. Je vais aller faire un petit peu les comptes avec mes collègues spécialisés cet après-midi à l'Opinion.
Oui.
250 à 300 milliards d'euros. À peu près, on ne sait même plus exactement où sont les contours de cette dette Covid. Alors effectivement, elle est bien supportée par la BCE, les taux sont bas, elle ne nous coûte pas grand-chose cette dette, mais il y a quand même un moment où il va falloir la rembourser. Alors sur qui est-ce qu'on s'appuie sur
et
la rembourser?
Le déficit a explosé, hein. Il approche des 120% du PIB.
Donc tout ça, il va bien falloir le rembourser à un moment ou à un autre. Alors les plus riches, les plus riches, si on se focalisait par exemple sur l'idée de l'ISF, ça rapporte 3 milliards par an.
Oui.
300 milliards de dettes, 3 milliards pour l'ISF. Donc, autant dire que c'est une goutte d'eau dans cet océan-là. C'est sans doute sur les classes moyennes que ça va porter. Mais les classes moyennes, c'est quand même, elles ont été toutes très affectées par cette crise Covid. Donc, où est-ce qu'on va aller chercher l'argent? Moi, je ne crois pas qu'on ne pourra pas augmenter les impôts, mais ça va faire très, très mal fiscalement.
Oui, et puis on voit en même temps les inégalités qui sont l'un des révélateurs de cette crise et des vecteurs d'accroissement des inégalités. Hein. Cette crise rend les gens de plus en plus pauvres. 10 millions de précaires d'ici à la fin de l'année, nous disent aujourd'hui les associations. Est-ce que le principe du modèle français basé sur la solidarité nationale doit s'appliquer, Catherine Ney, avec une espèce de taxe Covid? Peut-être pas pour les classes moyennes d'ailleurs, mais pour les plus riches.
Ah ben ça, de toute façon, je vais vous dire, faire payer les riches, c'est un sujet récurrent en France. Moi, je ne connais pas une campagne où d'un côté, c'est très clivé droite-gauche, la droite, c'est toujours moins d'impôts parce qu'on est quand même le pays le plus qui est le plus imposé, là où on paye le plus, où d'ailleurs l'impôt sur le revenu taxe le moins de gens, et donc c'est la classe moyenne et supérieure qui paie l'impôt sur le revenu. Et quant à l'impôt sur la fortune, depuis 1981, ça paraît, ça revient, ça repart. Enfin, on pense que c'est, pour la gauche, c'est vraiment le sujet. Oui. Vous écoutez Thomas Piketty, fait des livres de 600 pages pour expliquer que c'est la solution et qu'il n'y en a pas d'autre. Vous voyez, donc c'est un sujet qui va revenir forcément là, alors qu'on s'approche de la présidentielle, oui. Ça va revenir. Alors qu'il y a un sujet qui n'est jamais abordé.
Lequel ?
Qui commence ? Eh bien, c'est que l'État, je veux dire, en étant endetté, on fait payer des impôts à cause de cette gabegie de l'État qui est de plus en plus compliquée. On ne peut pas faire les choses simplement avec les strates qui s'empilent.
Et alors, à chaque fois, la gabegie de l'État, quand on a voulu toucher à l'hôpital, on s'est aperçu 5 ans après que l'hôpital, on en avait besoin.
Eh bien, c'est pareil à peu près pour tout. Oui. Pour tout. Donc, la droite dit toujours on va remettre de l'ordre, ce qu'elle ne fait jamais.
Oui.
Et la gauche dit on ne remet pas d'ordre, mais on fait payer les riches.
Alors,
c'est toujours la même chose.
Il y a quand même un rapport du Sénat qui donne du grain à moudre aussi à l'opposition, et notamment à gauche. C'est sur la suppression de l'ISF. On ne voit pas, nous disent les sénateurs, qu'on ne peut pas taxer d'être à gauche, puisque la majorité est à droite. On ne voit pas particulièrement, disent-ils, de ruissellement à ce stade sur l'économie. En revanche, nous dit ce rapport, la réforme d'Emmanuel Macron a rapporté 1,7 million d'euros à chacun des 100 Français les plus riches. Donc il y a quand même un sujet sur l'impact de la suppression de l'ISF. Alors, faut-il recréer un ISF ? Je ne sais pas, mais la question de la taxation des plus riches se pose à l'aune de ce rapport. Jean Garrigue.
Oui, c'est vrai qu'il y a un sujet, incontestablement. D'ailleurs, c'est un sujet qui se pose toujours dans les périodes de crise, si on remonte à la crise de 1929, à ce qu'avait été la politique de Franklin Roosevelt, je suis historien, et ça me vient tout de suite à l'esprit. Bon, il y avait eu effectivement une politique de taxation des riches très, très importante, qui avait été une contribution, et ce n'était pas la seule d'ailleurs, au redressement de l'économie américaine, qui s'était d'ailleurs surtout redressée grâce à la Seconde Guerre mondiale.
Oui.
Mais donc, c'est un vrai problème qui se pose. Et évidemment, la gauche s'en empare, parce que ça fait partie de son ADN. Et c'est vrai qu'il y a des projets qui peuvent apparaître comme relativement crédibles quand il s'agit de taxer les 1% des plus riches, y compris d'ailleurs des projets qui concernent toute la zone euro, enfin l'Union européenne. Ça peut être, ça me semble totalement irréalisable à l'échelle européenne, étant donné ce qu'est aujourd'hui, on le voit bien, l'Union européenne.
1% les plus riches, c'est quand on gagne plus de 6 000 euros par mois.
C'est
par
ça.
Personne.
Oui, et c'est surtout peut-être sur le patrimoine qu'il faut raisonner. Ce sont des patrimoines à 200 millions d'euros.
Oui.
Donc ça concerne déjà des très riches.
Oui.
Là, les classes moyennes ne sont pas touchées. Donc ce type de réflexion, on peut la mener, sachant qu'évidemment, on est toujours dans cet équilibre entre ce qui est de l'ordre de la solidarité, de l'équilibre social, de l'harmonie sociale, et puis aussi, de l'autre côté, eh bien, le pragmatisme économique qui fait que si vous taxez les riches s'en vont, et les capitaux aussi.
Oui, 18h39, on continue d'en parler avec les grandes voix du jeudi. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h41, le débat des grandes voix du jeudi avec toujours Catherine Ney, Emmanuel Ducrot, éditorialiste et journaliste à l'Opinion, et Jean Garrigue, historien qui nous accompagne ce soir dans le débat des grandes voix. On parle de cette taxe Covid qui rebondit, le débat rebondit. Évidemment, comment rembourser la dette Covid ? On en parle donc ce soir avec les grandes voix. Alors, vous disiez, Catherine Ney, que c'est vrai que la France est un des pays où les prélèvements obligatoires et notamment les impôts sont les plus importants, mais en même temps, l'argent est là. L'argent est là, Catherine Ney, car les Français ont épargné 50 milliards d'euros qui dorment en ce moment sur les livrets.
Oui, mais ça, ce n'est pas les plus riches. C'est les classes moyennes, parce que, évidemment, c'est les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et bon, mais pendant le premier confinement, ben, ils n'ont pas dépensé parce que tout était fermé, et puis ils n'y avaient pas le cœur, ils n'ont pas eu le temps de consommer. D'ailleurs, la consommation reprenait un peu cet été,
oui.
Et puis elle est à nouveau stoppée. Donc, ce qu'il faut, c'est évidemment que si on va vers le déconfinement et au moment de Noël, on verra si l'activité reprend, si les gens dépensent. Et d'ailleurs, Bruno Le Maire pense qu'une des solutions de l'endettement, c'est aussi par la croissance. Et la croissance, on sait qu'en France, elle se fait par la consommation.
Oui.
Donc, on espère qu'après cette privation, les gens retrouveront de l'optimisme, enfin, ceux qui ont un travail, parce que ça va être...
En tout cas, les Français, voilà. Eux, ils ont bien intégré, hein, parce que pour 86% d'entre eux, je regardais un sondage qui est paru, fait par l'IFOP, justement pour votre journal, Emmanuel, pour l'Opinion, 86% des Français ont intégré que la dette actuelle sera remboursée par les hausses d'impôts, donc... Ils savent bien qu'à la fin, c'est les Français qui paieront, Emmanuel Ducrot.
Bah, je pense que c'est une évidence. Enfin, je veux dire, les Français savent aussi ce que c'est que d'avoir une dette personnelle et qu'elle se rembourse. Alors, je sais bien qu'on ne peut pas comparer les ménages et les États, mais enfin, une dette, ça s'honore. C'est une évidence.
Mais vous parliez tout à l'heure de la réduction du fonctionnement de l'État, les fameuses économies sur le train de vie de l'État. Oui. Il y a encore des leviers où on peut aller chercher, parce que des plans de modernisation de l'État, il y en a eu,
des centaines.
Une dizaine.
Je vous rappelle qu'il y avait quand même un plan de réduction du nombre de fonctionnaires qui a été abandonné très récemment.
Il avait dit Emmanuel Macron sur le quinquennat. Mais
bah,
est-ce qu'on peut supprimer des fonctionnaires quand on voit les manques qu'on a aujourd'hui à l'hôpital ?
Alors écoutez, l'hôpital, je pense que c'est un cas à part et que c'est pas forcément à l'hôpital que ça va se jouer. Mais on a une fonction publique territoriale, par exemple, qui est totalement hypertrophiée.
Oui.
C'est du délire. Et je pense que quand on s'intéresse au fonctionnement de la machine administrative française, on voit un empilement ahurissant de normes, de procédures qui sont paralysantes et qui sont handicapantes pour absolument toute l'économie.
Oui.
Alors effectivement, ça va être douloureux. Il va falloir probablement tailler dans des choses qui se sont accumulées au fil des années. Mais on a un État qui aujourd'hui n'est pas seulement consommateur d'argent et de ressources. On a un État qui handicape le fonctionnement du
pays.
Donc
vous dites pas les impôts, mais plutôt des réductions du coût du train de vie de l'État.
Pierre Moscovici, qui ne se posait pas ces questions quand
le
il était ministre
de
des Finances,
de la Cour des comptes.
Mais aujourd'hui, il dit « je n'arrive pas à me résoudre à l'idée que nous serions le seul pays européen où la recherche de la meilleure politique au meilleur prix » serait considéré comme péjoratif.
En même temps, il est dans son rôle. C'est le garant.
Oui, mais il dit une vérité aussi.
Des bonnes dépenses de l'argent public.
On voit bien que la suradministration étatique et hyper centralisée, qui est un mal français, a fait beaucoup de mal, y compris dans la lutte contre la pandémie. Le manque de masques, les exemples abondent. Donc ça fait partie, évidemment, des solutions. Ça fait partie des solutions, d'ailleurs, proposées par Bruno Le Maire. Mais encore faut-il que les politiques aillent jusqu'au bout de leur projet, ce qui n'a pas été fait jusqu'à présent, que ça ne soit pas une logique arithmétique comme ça avait été tenté par Nicolas Sarkozy à l'époque.
Oui.
Et on voit bien les limites de ce type d'amincissement de la bureaucratie française. Mais c'est vrai que sur la gestion des collectivités territoriales, par exemple, on sait bien que là, il y a d'énormes économies d'échelle à réaliser.
Alors, je vais vous poser la question peut-être autrement. Au-delà de l'intérêt économique d'instaurer une forme de taxe pour les plus riches sur le Covid, est-ce que politiquement, le gouvernement va pouvoir en faire l'économie, Catherine Ney ? Un pays qui va sortir de cette crise plus fracturé que jamais, avec des inégalités très fortes, est-ce que la campagne de 2022, le gouvernement et Emmanuel Macron, va pouvoir échapper à ce débat ?
Sûrement pas. D'ailleurs, la gauche commence à entendre, en tous les cas, la France insoumise, qui déjà parle d'un impôt sur la fortune. Mais ça va revenir parce que ça revient dans toutes les campagnes.
Oui.
Et là, Emmanuel Macron, il a joué en même temps, il a gardé l'ISF, un petit bout, pour l'immobilier, puis il a supprimé. Voilà, il a fait du en même temps.
Oui.
Et malgré ça, il est appelé le président des riches.
Oui.
Voyez bon. Donc, ça va revenir dans sa campagne, il va être taxé de président des riches, et ça va être un des axes de la campagne futur.
Emmanuel Ducrot.
On va certainement en reparler. Il faut bien avoir conscience qu'on n'est pas du tout en train de débattre d'un sujet d'utilité fiscale ou d'utilité budgétaire. On est en train de parler d'un symbole.
Oui.
Ça n'est rien d'autre que ça. C'est un symbole.
Bien. Après, ça dépend. Ça dépend du niveau d'impôt, parce que si on revient à François Hollande et ses 70%, ça peut commencer à rapporter gros. Jean Garrigue.
Complètement d'accord. Mais
qui n'a pas été appliqué.
Qui n'a pas été appliqué.
Quand on voit le mal qu'a fait la réforme de l'ISF à l'image d'Emmanuel Macron, quand on voit qu'aujourd'hui 70% des Français sont favorables à un impôt sur la fortune et un rétablissement en fait de l'ISF, ça va être un sujet et un enjeu majeur, d'autant plus que si l'on écoute ce qui a été dit par Emmanuel Macron, on est quand même là dans un nouveau chemin, et dans un chemin plus protecteur, plus interventionniste, et très, très clairement on tourne le dos à une forme d'orthodoxie libérale qui était plutôt la ligne originale du quinquennat. Donc, il va se passer des choses sur ce front-là. Le sujet va être posé. Et je pense que Emmanuel Macron sera obligé d'y répondre d'une manière un peu différente que ce qui s'est passé au début.
18h47, vous restez avec nous. On continue de débattre avec les grandes voix. Et on parlera de l'isolement des malades de la Covid. Faut-il les forcer à s'isoler, ces malades ? C'est le projet, dit-on, du gouvernement. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec toujours le débat des grandes voix du jeudi, Catherine Ney, Emmanuel Ducrot, éditorialiste et journaliste à l'Opinion, et l'historien Jean Garry. 18h50, on parle maintenant de cette affaire qui fait grand bruit. Faut-il forcer les malades Covid à s'isoler coûte que coûte? Le Premier ministre y réfléchit, nous dit-on, à rendre l'isolement des malades obligatoire dans des chambres d'hôtel réquisitionnées spécialement, sous peine de fortes amendes pouvant aller jusqu'à 10 000 euros. Est-ce que c'est possible, ça, Catherine Ney?
Les amendes, non mais ça c'est vrai que lorsque l'épidémie a surgi, il y avait un triptyque qui était testé, tracé, isolé.
Oui.
Il y a eu toute une campagne pendant le confinement avec le PDG d'Accor, entre autres, et d'autres hôteliers qui fermaient, disaient « nous on est prêts à accueillir ces malades ».
Et on n'a pas été fichus de les utiliser, ces chambres. On n'a pas été fichus de les utiliser, les chambres d'hôtel.
On ne les a pas utilisées parce que est-ce qu'on en a fait la proposition aux gens malades qui étaient positifs? J'en suis pas sûre. Est-ce que les hôtels ont vraiment proposé leur chambre et combien?
J'ai des centaines de chambres.
Oui. Bon, mais qui a organisé cette disponibilité de, je veux dire, parce que les malades, dans le fond, quand ils rentrent chez eux, mais si on leur dit vous avez une autre possibilité, peut-être que certains seraient très contents et d'ailleurs faudrait peut-être l'imposer. Mais je crois qu'on a lancé cette idée et puis elle n'a pas été organisée. Oui. Il y a un manque d'organisation à la fois côté hôteliers qui ne sont pas allés voir les hôpitaux pour leur dire attention, nous on est là. Pensez à nous.
Oui.
Vous voyez, ça n'a pas été fait auprès des maires.
C'est vrai.
Ça n'a pas. Je veux dire, c'est une idée qu'on a lancée en l'air.
Oui.
Et puis qui n'a pas été.
L'absence d'organisation. Mais on voit encore une fois que le gouvernement manie la carotte et le bâton, Emmanuel Ducrot. C'est-à-dire qu'on nous dit, allez, peut-être vous aurez un Noël en famille, mais en même temps, pour ceux qui ne s'isolent pas, ça peut être 10 000 euros d'amende.
Alors, moi, je pense que c'est un sujet qu'il a raison de manier avec précaution, parce que là, on est quand même sur un sujet de liberté publique ultra sensible. Vous pouvez proposer aux gens d'aller s'isoler dans une chambre d'hôtel, leur imposer de le faire, on change de régime.
Oui,
là.
Oui.
Il y a des endroits dans le monde où on l'a fait, ça s'appelle la Chine, c'est pas exactement une démocratie, et je suis pas certaine que dans le climat actuel, avec déjà toutes les restrictions de liberté qu'on
Donc,
a eues...
Donc, fausse bonne idée.
Ben, je pense que ça ne peut pas être autre chose qu'une proposition pour des gens que ça arrangerait pour des raisons familiales de ne pas être en contact avec les leurs. Mais vous ne pouvez pas imposer à des gens d'aller dans un hôtel. Enfin, vous imaginez les contraintes d'organisation.
Oui.
Enfin, c'est une privation de liberté.
Jean-Garry.
Complètement d'accord, mais qui dit proposition, dit responsabilisation et organisation. Et effectivement, comme le rappelait Catherine, ça n'a pas fonctionné. Il y avait ce système covisant avec 300 hôtels concernés, le groupe Accor, etc. Et les hôtels sont restés vides parce que les municipalités, les responsables de la santé n'informaient pas suffisamment les patients. Et puis deuxièmement, ce qui a fonctionné, enfin c'était un peu la stratégie suédoise qui demandait aux personnes à risque de se confiner. Ça a pas mal fonctionné en Suède. On voit qu'aujourd'hui c'est peut-être moins efficace, mais en tout cas ça plutôt bien fonctionné en Suède, mais la mentalité d'un Suédois n'est pas tout à fait
celle d'un
Français.
Mais moi, j'ai le sentiment quand même que les personnes qui sont testées positives au Covid s'isolent en France. Alors, il y a peut-être des exceptions.
Elles rentrent chez elles en famille, elles font éventuellement lit à part avec leur époux ou leur épouse, si elle en a la possibilité, ou garde son masque, je n'en sais rien, mais ce n'est pas vraiment un isolement.
Oui.
Donc, la plupart reviennent dans leur famille au risque de contaminer les autres. Or, il y a aussi quelque chose qui est assez, qu'on a constaté, c'est qu'une personne qui est positive ne transmet pas forcément son virus
c'est
au
vrai,
reste de la famille.
C'est vrai.
Donc on ne sait pas non plus comment se passe le virus.
Mais vous avez vu l'état d'esprit de la société française. Oui. Le ministre Véran a insisté là-dessus tout à l'heure à sa conférence de presse, qu'on a suivi partiellement en direct sur Europe 1. Il dit « la France est dans une santé mentale très inquiétante ». Donc imaginez demain, en plus, aller confiner des gens dans des chambres d'hôtel de 4 mètres carrés au bout de la France. Enfin,
Ce deuxième confinement arrive à un moment qui est le pire de l'année. C'est-à-dire que le premier arrive au printemps, il fait beau, les gens ont les fenêtres ouvertes, c'est compliqué d'être chez soi, mais on est quand même dans une luminosité, etc. Ça a l'air de rien du tout.
Mais non, c'est essentiel.
On est dans l'automne.
Le mois de la dépression.
Oui.
Et le mois où il y a le plus de morts, statistiquement, tout le temps, hors Covid.
Et on était la première fois dans une sorte d'aventure collective qui finalement portait les Français. Ils discutaient entre eux de leur confinement, ils racontaient les choses parce que c'était nouveau et que ça avait beau être sidérant. C'était quand même une expérience intellectuellement intéressante, même si elle était extrêmement difficile. On est la deuxième fois, tout ça, ça a disparu. On s'occupe plus des soignants, on leur envoie plus des petits plats pour les soutenir. Tout le monde est dans une baisse de morale folle. Si on commence en plus à vouloir exfiltrer les gens de chez eux, c'est un accident
de santé publique.
Et on attend la prise de parole du président de la République. La semaine prochaine, normalement, il doit annoncer les contours de ce déconfinement gradué, nous dit-on, Jean Garrigue.
Oui, ce qu'on attend du président de la République, on le voit bien, ils se sont partagés un peu le bad cop, good cop, et c'est à lui plutôt d'annoncer un déconfinement, et un assouplissement des règles, etc., des normes. Et je pense que c'est vraiment pas le moment de pousser les gens à ce confinement dans des hôtels anonymes, au moment où, au contraire, on recherche de la proximité, de la
chaleur. Quand il fait nuit à 16 heures, ce n'est pas possible.
Et puis c'est vrai que la logistique, on peut pas mettre un policier et un gendarme derrière chaque...
Voilà.
Et puis comment on les repère d'ailleurs? Alors ceux qui ont l'application Covid, qui a été d'ailleurs téléchargée des millions de fois, c'est plutôt un succès ça. Mais je veux dire, comment on les repère, les cas contacts ou les cas positifs du Covid? C'est impossible.
Ça fonctionne dans des pays comme même en Corée du Sud, semble-t-il, dans des pays qui sont libéraux, mais avec la mentalité asiatique, qu'on le veuille ou non, n'est pas tout à fait la même que celle des Français. Il y a une sorte d'autodiscipline qui n'est pas la nôtre. Et puis, je le répète, le moment serait très mal choisi.
Oui. Merci à tous les trois d'avoir participé ce soir aux grandes voix du jeudi. Merci. Europe 1.